et bienvenue dans Quality Time, le podcast de Zenity. Dans cet épisode exceptionnel, nous allons plonger au cœur du débat autour des certifications QA, avec un focus particulier sur l'ISTQB, l'une des accréditations les plus reconnues de l'industrie. Pour éclairer ce sujet, nous avons la chance d'accueillir une test lead chevronnée, Nathalie Turquet. Bonjour.
Bonjour.
Forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du test, tu ne te contentes pas de briller en tant que professionnel du test. Tu formes également la prochaine génération de certifiés. Attendez-vous à une mine d'expérience, de réflexions éclairées et d'astuces sur l'univers des certifications. Également avec nous, et pour la première fois dans cette saison 2 de Quality Time, Grégory Nana. Bonjour.
Bonjour.
Alors Grégory Nana, il a cofondé Zenity avec Sylvain il y a de ça 13 ans. Zenity, on ne le rappellera jamais assez, c'est une pure player du test logiciel, labellisée entreprise innovante par la BPI. Également, et ça c'est la première fois qu'on le précise, un organisme de formation certifié Calliope. Grégory, lui, il a une vingtaine d'années d'expérience dans le test logiciel, si bien qu'il y a 8 ans, il a commencé à enseigner à l'université Paris-Sorbonne et Paris-Descartes auprès des licences informatiques, c'est ça?
C'est ça.
Si mes calculs sont exacts, tu as initié à la qualité plusieurs centaines de jeunes développeurs.
En effet, ça commence à faire un paquet.
Et tu as réussi à convertir certains de ces développeurs en automaticiens.
J'ai réussi le challenge de convertir certains développeurs qui ne connaissaient rien à la qualité logicielle, en effet, à devenir des testeurs aujourd'hui chevronnés. On en a recruté plus d'un d'ailleurs.
Et certains certifiés.
Ah oui, tout à fait.
Alors, au programme de cet épisode, nous allons plonger dans le parcours exceptionnel de notre invitée, découvrir comment elle est devenue formatrice en certification QA et explorer son premier contact avec le monde des certifications, en particulier l'ISTQB. On discutera de la pertinence de ces certifications dans le secteur de l'assurance qualité et de la manière dont elles peuvent propulser les carrières des professionnels, si c'est le cas. Vous découvrirez comment choisir les certifications qui correspondent le mieux à votre profil professionnel, ainsi que des astuces pour réussir l'examen certifiant. Puis nous explorerons les défis spécifiques auxquels les professionnels de l'assurance qualité sont actuellement confrontés et comment les certifications les aident à les relever. On discutera également des tendances émergentes dans le domaine du test QA, des changements observés au fil des années et de la manière dont les certifications, y compris l'ISTQB, évoluent pour rester pertinentes. Enfin, notre invité partagera des conseils et des recommandations pour les ressources, livres et cours en ligne à envisager pour réussir votre examen des certifications QA. Tout cela nous conduira à nous poser la grande question sur le sujet brûlant de l'industrie du test. Est-ce que l'ISTQB et les certifications QA sont utiles? Point d'interrogation. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans le monde passionnant du développement logiciel orienté qualité. C'est Quality Time. Très bien, alors pour commencer et pour apprendre à te connaître un peu plus intimement, Nathalie, et déterminer quel genre de QA tu es, tu auras donc une minute pour répondre au maximum de questions, un peu à la Fast and Curious de Combini, et on reviendra sur certaines de tes réponses après. Est-ce que ça te dit?
Bah allons-y.
Très bien, c'est parti. Formation structurée ou apprentissage sur le terrain?
Les deux, mon capitaine.
Alors, l'intérêt, c'est de choisir un des deux. Hein, parce que...
ouais, mais là, je peux argumenter pour dire pourquoi les deux, mais l'un ne va pas sans l'autre.
On continue. Test manuel ou test automatisé?
Manuel, en ce qui me concerne.
Très bien. Mer ou montagne?
Mer.
Expérience pratique ou connaissance théorique?
Je ne vais pas dire les deux, parce que... mais expérience pratique, oui, mais... Oui, mais...
Oui, mais...
Tout le podcast va être le sens d'expliquer pourquoi, oui, mais...
Ah, mais complètement, complètement. Mais c'est une des raisons pour lesquelles Karim m'a demandé de venir, je crois.
Totalement.
Le livre ou le film?
Le livre.
Test exploratoire ou test basé sur un plan?
Pareil, en ce qui me concerne, moi maintenant, test exploratoire.
Spécialisation ou polyvalence?
Dans le test, polyvalence.
L'aventure ou la routine?
À l'aventure.
Auto-formation ou cours officiel?
On démarre par l'auto-formation et on continue par le cours officiel.
Créativité ou logique?
Pareil, je vais faire une réponse un peu logique, puis créativité. Les deux sont utiles.
L'émotion ou la raison?
L'émotion.
C'est beau. Le rêve ou la réalité?
Alors, dans le test, la réalité. Dans ma vie personnelle, le rêve.
Tester avec un budget limité ou tester avec un budget illimité?
Alors, je vais commencer à partir sur du STQB si tu me lances comme ça. Mais tester tout est impossible. Donc, même avec un budget illimité, on ne peut pas tout tester. Donc, budget limité.
Très bien.
Mais pertinence des tests.
Sport ou culture ?
Le sport est une culture, donc sport.
Tester rapidement, tester en profondeur ?
Alors, moi, tester en profondeur.
Ah, et malheureusement, c'est terminé. Ça fait une minute.
Et on a fait que le quart des questions.
C'est vrai. Alors, on va revenir sur certaines de tes réponses. Il y en a quelques-unes qui m'ont interpellé. Je ne sais pas, Greg, peut-être toi aussi.
Ouais, je sens Nathalie très rigoureuse, mais elle a envie de s'éclater au boulot.
D'accord, c'est vrai.
Excellent résumé, excellent résumé. Innovation, nouveauté. Enfin, moi, aller faire du test pour faire le même test tout le temps, non. Et justement, l'émotion et le ressenti permet aussi de détecter, parce que c'est quand même notre but, de détecter des défauts. Avec le ressenti, on fait. Une nouvelle certification que j'ai récupérée il n'y a pas longtemps, c'est Usability de ISTQB. Et c'est vraiment le côté UX, UI. Donc, on teste. Et comment tester l'UX autrement que dans l'émotionnel ? À mon sens, c'est vraiment le ressenti. Parce que là, on n'est pas en train de parler de performance. Non, on parle d'ergonomie, de fluidité des gestes. Donc, de l'émotion ressentie quand on le fait. Et ça, moi, j'en fais beaucoup. Et ça peut amener à de la performance aussi, hein, d'ailleurs, parce que l'utilisateur qui va dire « Oh là là, c'est long !» Alors qu'en fait, techniquement, c'est pas si long que ça, mais que c'est son ressenti, il faut faire quelque chose pour corriger ce problème-là.
Comment on quantifie ça, du coup ? Qu'est-ce que l'ISTQB dit là-dessus ?
Alors, ben justement, la fameuse certification Usability, elle nous donne des techniques de quantification et des questionnaires préparés. À aujourd'hui, elle est très orientée Amérique du Nord. Les questionnaires sont alors évidemment tous en anglais, mais ça, c'est pas trop le problème. Mais ils sont très orientés façon de travailler des Américains et des Canadiens. Donc, mais en France, on a, nous, une norme qui rentre complètement dans ce domaine-là. C'est la norme RG2A, qui est aujourd'hui totalement obligatoire pour tous les sites administratifs, les sites publics, et qui permet l'accessibilité à tous les gens porteurs de handicap, que ce soit des malvoyants, des malentendants, etc. Donc, et quand je dis malvoyant, un daltonien peut aller sur un site, pour donner un exemple concret, peut aller sur un site du service public et il verra le site exactement de la même façon que quelqu'un qui n'a pas de problème de vision.
Intégrer du coup des personnes en situation de handicap pour qu'elles effectuent ces tests d'accessibilité, puisque c'est les premières concernées.
Exactement. On en revient à ce que je disais avant avec les utilisateurs finaux et leurs ressentis. Bah, là, on est complètement dans l'UX du vrai utilisateur malvoyant ou porteur de handicap, selon le cas. Et l'inclusion, comme c'est quand même un des moteurs aujourd'hui de toutes les entreprises, est importante aussi. Et il faut savoir que cette fameuse norme RG2A, aujourd'hui, elle est que pour les sites publics. Mais prévoyons que dans un avenir relativement court, je pense, enfin relativement proche en tout cas, ça sera obligatoire pour l'ensemble des sites. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Hein. Ils ont commencé par les sites publics. Et puis maintenant, même le site de L'Oréal aux États-Unis doit respecter la norme. Alors, c'est Patriot Act, etc. Enfin, il y a des noms, c'est les noms américains, mais voilà, c'est... Donc, on va aller vers ça aussi en Europe.
Il y a une autre réponse que tu as apportée qui m'interpelle. J'aimerais bien que tu étayes un petit peu. Je t'ai proposé spécialisation ou polyvalence et tu as choisi polyvalence. Ça m'intéresse dans le secteur du test.
J'ai dit pour moi polyvalence parce que j'ai atteint un niveau d'expertise technique et fonctionnel dans pas mal de secteurs d'activité qui font que je peux être polyvalente et donc un peu être positionnée n'importe où et savoir gérer des sujets, même si je ne connais pas le métier en tant que tel. Par contre, si tu m'avais posé la question il y a 10 ans, j'aurais dit spécialisation. Mais aujourd'hui, j'ai effectivement... Enfin, t'as parlé de ma carrière exceptionnelle. Parlons de ma carrière exceptionnelle. Mais non, mais j'ai fait effectivement le grand écart en termes de secteur d'activité entre Renault, par exemple, et Yves Saint-Laurent Parfum. Et aujourd'hui, Clarins. Enfin, je fais vraiment des grands écarts dans l'industrie mécanique. J'ai fait Rockwool aussi. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est de la laine de roche pour faire l'isolation.
Enfin, oh bah oui, tout le monde connaît ça.
Non, mais c'est pour ça. Alors, je ne sais même pas s'ils existent encore. mais en tout cas, c'est vraiment... J'ai fait de l'industrie lourde.
Ouais.
Grégory disait que j'étais dans l'émotion et dans la créativité. J'ai besoin de découvrir des choses tout le temps.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que polyvalence.
Ouais, beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans, je pense.
Bah, oui, je pense que... Et beaucoup de testeurs, notamment, parce ouais. qu'un de mes slogans que tu as dû entendre, Karim, quand j'ai fait la formation, mais je dis toujours qu'un bon testeur est un très bon acteur. Mmh. Il faut qu'il se mette dans la peau... Ouais. De l'utilisateur. Donc, je pense qu'il y a des testeurs qui pourraient faire des carrières d'acteurs.
On en a quelques-uns au sein de la société, petite voilà. dédicace.
Oui, non, mais je pense que c'est vrai. Enfin, on est capable émotionnellement de faire semblant d'être triste ou d'être. Voilà. Donc,
ou des trajets.
Exactement.
On est. Comprendre l'informatique.
D'être malade, d'être malvoyant, on en parlait juste avant pour l'accessibilité. Voilà.
Faut fermer les yeux, ça c'est simple en fait. Moi, ça me donne envie du coup de préciser quoi. Est-ce que tu peux nous préciser comment tu as réussi à gravir les échelons pour devenir l'experte que tu es aujourd'hui?
Alors, je vais même remonter au tout départ où, comme je dis, je suis tombée dans le test un peu comme Obélix était tombé dans la potion magique, parce que, en fait, juste pour redonner mon cursus global, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en mécanique et aérotechnique. Donc, je suis censé savoir construire des avions, des satellites, enfin, des choses comme ça. Mais quand j'ai, en dernière année d'école d'ingénieur, j'ai choisi une option informatique. Et mon bureau d'études, donc vraiment mon dernier travail en tant qu'étudiante, ça a été de faire de la programmation d'une machine de fatigue. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une machine qui va utiliser des petites bandelettes de métal et qui va les tirer très, très fort, les pousser très, très fort, enfin, et qui donc va tester ce métal pour en déduire ses différentes capacités, une fois trempé, pas trempé. Enfin, après, là, il y a de la mécanique et de la thermodynamique qui intervient aussi. Mmh. Mais du coup, mon premier, entre guillemets, job, ça a été de tester ces petits morceaux de métaux. Donc, j'ai poursuivi mes études, bon, comme j'avais fait de l'informatique et qu'à l'époque, l'aéronautique, ce n'était pas le top. J'ai fini dans une société de service qui s'appelait à l'époque Unilog, voilà. Donc, qui était une toute petite société au moment où
ça
je suis rentrée.
Ça
a
bien grossi, ouais.
Voilà, depuis, ça a beaucoup grossi. Mais, et donc, quand je suis rentrée chez eux, j'ai fait du développement sur des gros systèmes, etc. Mais sauf que moi, j'avais toujours cette... je ne voulais pas livrer mon développement si je n'étais pas sûre qu'il faisait ce qu'on m'avait demandé, quoi. Mmh. Donc, je me faisais déjà des petits automates de tests, même pour ne pas avoir à créer mes jeux de données, etc. Donc, j'ai commencé comme ça, mais c'était un peu officieux, quoi. Et puis, c'était à l'époque, on est en train de parler du siècle dernier, c'était pas encore... Enfin, le test n'était pas reconnu en tant que...
Métier.
Ni même réelle activité, quoi. C'était,
tu te souviens quels outils tu utilisais pour tes automates à l'époque?
Ben, j'utilisais les mêmes. Enfin, moi, je travaillais sur AS400, donc c'était le langage propriétaire, le RPG, et le langage de contrôle qui était associé. Et donc, je me faisais des petits scripts en langage de contrôle pour me générer mes...
Mes jeux de données,
et derrière, je lançais... pareil avec un script en langage de contrôle, les programmes qui allaient bien derrière. Donc, je zappais les IHM, hein, parce que, enfin, surtout que les ouais. IHM en AS400, c'était quand même des écrans vert sur noir, très, très moche, très, très, enfin, voilà.
The Matrix, bon, ça l'est toujours.
On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Tu m'as posé la question culture ou sport. J'ai dit sport, mais bon, un petit peu de culture. Bon. Aznavour, on ne peut pas...
On
ne peut pas manquer, voilà. Donc, non, et du coup, après, j'ai continué, et j'ai toujours gardé cette philosophie test et qualité. Hein, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le nom de ce podcast, parce qu'on n'est pas en train de parler de test, mais on est en train de parler de la qualité. Et le test, il sert à quoi? À apporter de la qualité. Donc, en continuant... Il y a eu un moment où, bah, comme tout le monde, quoi, quand on a fait du développement, on prend un peu en charge un projet et tout... Et en fait, la gestion de projet, c'était pas ma tasse de thé, dans le sens où faire du fichier Excel toute la journée, c'était pas... Moi, il me fallait de l'action,
ouais.
De l'aventure. Donc, je recoupe avec une autre réponse. Mais du coup, je me suis un peu intéressée à ce qui se passait, justement, dans le cas de... J'ai fait un peu d'AMOA, et à un moment, on m'a dit, bah, tiens, ça a été développé, faudrait le tester, mais toujours non cadré, enfin, pas... Et donc, j'ai dit OK. Et il y a eu une première mission que j'ai faite où je suis arrivée, où on m'a vraiment demandé d'être testeur. Et là, j'ai découvert le monde du test. J'ai découvert les outils QC, par exemple. Pour ne citer que celui-là qui s'appelle maintenant OpenText ALM Octane. Il a beaucoup changé de nom depuis, mais en tout cas, c'est toujours... voilà. Donc, j'ai découvert l'univers du métier du test.
Outillé, c'était déjà pas mal.
Bah, déjà, c'était une société, enfin une entreprise qui était déjà bien avancée, déjà bien mature. On peut la citer, c'était Engie.
Okay. Donc,
Et quand je suis arrivée chez eux, effectivement, ils étaient déjà outillés. Ils utilisaient très mal leurs outils, mais ils étaient outillés, ce qui était déjà vraiment une très bonne chose. Et c'était beaucoup plus facile de... Et donc, j'ai découvert comme ça. Donc, je suis montée sur les différents outils et montée sur le pilotage, parce que malgré tout, je commençais à avoir pas loin de 10-15 ans d'ancienneté. Donc, forcément, une expérience assez globale. Et c'est pour ça que je dis que j'ai 20-25 ans de tests derrière moi, officieusement, et plutôt 15 officiellement. Et donc, la première certification que j'ai faite, ce n'était pas ISTQB Fondation. Mmh. Parce que, Unilog, qui était devenu Logica, n'était pas...
Je tease.
C'était pas fondation, parce que ISTQB n'était pas dans les radars de Unilog ou Logica, puisque ça avait changé de nom entre-temps. Et donc, j'ai été certifié ALM. ASE, là, donc Application Solution Expert. Donc, pareil, une entrée dans les certifications un peu particulière, parce que 3 heures d'examen, tout en anglais, j'ai réussi à l'avoir du premier coup.
Félicitations, est-ce qu'on ne l'applaudirait pas?
C'est magnifique. Première réussite dans le test officiel.
Et du coup, mois plus tard, j'ai tanné mes managers en disant « mais non, mais c'est important ». Et puis surtout, notamment, j'étais à ce moment-là déjà chez Engie. Eux commençaient aussi à recruter des gens qui étaient certifiés. Et donc, ils ont vu l'intérêt de la certification, comme aussi le fait de tamponner des compétences. Donc, du coup, j'ai passé effectivement fondation à ne pas suivre comme exemple, mais c'est parce que j'avais quelques années d'expérience et j'ai fait quelques mois plus tard test manager. Donc, voilà. Okay. Mais voilà.
Ça va être le sujet. Calmez-vous. C'est un exemple à ne pas suivre.
Et c'est pour ça que je précise que c'est un exemple à ne pas suivre. C'est parce que j'avais l'expérience que j'ai pu aller sur test manager et que j'ai réussi test manager aussi. Enfin, pour l'instant, je croise les doigts, mais toutes les certifications que j'ai pu faire, je les ai eues du premier coup. Bon, après, les certifications ISTQB, on y reviendra pendant la durée du podcast, mais il y a des petites techniques quand même pour réussir à...
Choisissez toujours la réponse B.
Voilà. Alors ça, on a essayé. Hein. Il y en a qui ont essayé, mais ça ne marche pas bien.
Et du coup, à quel moment ça intervient ton premier poste de formatrice, ta première formation assurée?
Alors, comme d'habitude, c'est un peu une tarte tatin. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire les formations, qui doit faire la formation et qui a un accident de voiture... pas grave du tout, hein. Je voudrais pas que ça soit non, pas grave du tout, mais en tout cas, qui peut pas le lundi matin venir faire la formation.
Est-ce que c'était sur une marque de voiture pour laquelle tu étais testeuse?
Non.
Et tu avais laissé passer une anomalie, etc. Je sais
tout,
pas.
Tout va bien, je n'étais absolument pas responsable.
Okay.
Et je ne dirais pas la marque de la voiture. On pourrait croire que je suis contre ces voitures. Du coup, le lundi matin, moi, j'étais au siège en train de poursuivre ma mission, etc. Et là... Ils avaient 12 personnes dans la salle pour faire une formation ISTQB Fondation. Donc là, ils ont cherché autour, etc. Et Nathalie, elle a déjà donné des formations. Parce que j'avais à peine quelques années d'expérience que je donnais les formations. Je vous parlais tout à l'heure de RPG et de langage de contrôle. Donc je pense que la formation, j'ai un peu ça en moi. Mes deux parents étaient profs. Ah oui. Est-ce que ceci explique cela? Je ne sais pas. Je vous laisserai le
héritage.
Décider.
L'amour en héritage.
C'est ça. Non, ça doit y avoir un petit petit truc dans les gènes de transmission du savoir qui fait que... Voilà. Donc, du coup, je me suis retrouvée face à 12 personnes. Alors, je l'avais quand même, la certification fondation, parce que je n'aurais pas accepté. Sinon, donc, j'avais déjà lu le syllabus, etc. Et, et là, je me retrouve en face de ces gens et je me dis, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir... Bon, j'avais un support. J'ai franchement, la toute première formation, j'ai suivi le support avec... Tu l'as vu, Karim, des petits exemples concrets de ma, vie, de ma vie professionnelle et même des fois personnelle, d'ailleurs.
C'est ça qui est très précieux hein, pendant les formations.
Ah ben, et c'est ça qui fait que ça rentre dans la tête des gens. Enfin, on est tous pareils.
Ça fait toute la différence.
L'anecdote associée à la théorie on finit par apprendre. Hein. C'est beaucoup plus... Mais même pendant la certification, on se rappelle de la bêtise que Nathalie a dite pendant la formation en lien avec la question.
C'est pour ça que tu fais exprès de dire des bêtises de temps en temps, pour voir si les gens sont plaisantés.
Non, mais tu as raison, des fois je fais exprès de...
C'est des moyens mémotechniques. Hein.
Exactement. Et après, je fais aussi énormément participer les uns les autres quand quelqu'un a compris. Mm-hmm. Je préfère que ce soit quelqu'un de l'assemblée qui explique aux autres plutôt que moi, parce que moi, je vais certainement répéter toujours la même chose, alors j'essaye. Ouais. Avec le temps de reformuler, mais c'est bien mieux quand c'est un père qui explique.
C'est marrant, je ressens un lien avec un PO qui expliquerait une fonctionnalité à des développeurs ou à des testeurs et on ne le comprendrait pas. Et à partir du moment où un développeur ou un testeur a compris, qui réexplique, ça y est, ça rentre pour tout le monde.
Mais c'est exactement ça. Pour moi, c'est exactement symétrique. Quoi. Enfin, on est tous...
Je peux extrapoler même. Je suis allé à un café philosophique. Je ne sais pas si vous faites ça, les cafés philo.
Et pas tout le temps, non.
Non.
Pas tous les jours, mais...
J'aurais choisi Q-Sport au lieu de culture.
Moi aussi, hein, j'ai choisi Sport.
Et un des trucs super importants dont il nous parle, en fait, c'est de reformuler. Et en fait, on va partir sur une problématique très large et puis un peu clivante. Et donc, il va falloir choisir un camp. Une personne de l'Assemblée va exprimer un argument, du coup, pas une opinion, mais un argument. Et une autre personne va lever la main et va devoir reformuler ce que la personne vient de dire. Avec d'autres mots paraphrasés. Et on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et quand j'avais eu l'occasion, dans le cadre de la Zenity Academy, d'assurer une formation, je me suis rendu compte que j'étais pas très bon pour expliquer la même chose de manière différente. Quand je me rends compte que la personne en face de moi ne comprend pas du premier coup, de pouvoir trouver les mots pour lui faire comprendre. Et j'aurais dû utiliser ta technique, du coup, tu me fais penser à ça, de proposer à quelqu'un d'autre qui avait compris dans la salle de reformuler avec ces mots.
Après... on dit que le test c'est un métier, mais la formation c'en est un aussi. Donc c'est pas non plus. Enfin, j'allais dire un bon formateur comme un bon commercial est capable d'apprendre aux gens n'importe quoi et que donc on s'améliore aussi au fur et à mesure. La toute première formation que j'ai donnée ISTQB. Alors déjà, je ne me souviens plus des résultats, du pourcentage de résultats. Mais franchement, je me sentais beaucoup moins à l'aise. Aujourd'hui, je suis super à l'aise quand je donne une formation. Alors après, ça dépend aussi du public que j'ai en face de moi. Hein, quand je tombe sur des publics qui sont intéressés et qui ont choisi d'être là, parce que malheureusement... Avec Fondation. Alors, Fondation, je la donne quand même maintenant de moins en moins. Il y a des gens qui l'ont eu il y a moins longtemps que moi, ouais. Qui du coup sont sans doute plus up-to-date pour certaines, même certaines notions à expliquer. Mm-hmm. Donc, mais je m'améliore à chaque fois et je m'enrichis de toutes les rencontres que je peux faire dans ces formations. Vos exemples, enfin les différents exemples quand j'ai fait la formation chez Zenity, je me rappelle d'un exemple au PMU, je crois que c'était, je ne sais plus si c'était avec Fondation ou avec vous en manager, mais je l'utilise très très régulièrement parce que en plus ça parle aux gens, la loterie. J'ai certains participants qui ont eu l'occasion de suivre ma formation plusieurs fois parce qu'ils ont raté, ils étaient venus trop tôt la première fois.
C'est à noter, n'y allez pas trop tôt.
Voilà.
Tu parlais du fait que ça faisait longtemps que tu avais passé à certification fondation et donc du coup tu te refusais un petit peu à la faire passer au nouveau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont les certifications ISTQB se mettent à jour?
Alors, super sujet. Ouais. Tricky question quand même, mais ouais. Super sujet quand même. Justement, moi en tant que formatrice, quand ils ont changé le syllabus là, qu'il est passé de 2011 à 2018, j'avais demandé au GASC de passer la formation 2018, qu'elle ne me rapporte rien, mais juste la passer pour tester et me mettre dans les conditions de mes futurs candidats. Et ils ont refusé. Par un concours de circonstances, j'ai quand même réussi à avec une mauvaise inscription quand j'ai voulu passer la certification Agile. Ouais. Je me suis retrouvée dans la certification Fondation. Alors, tous mes collègues qui voulaient aussi passer Agile, eux, ils se sont rendus compte que c'était Fondation, ils ont abandonné. Moi, je me suis dit, ils n'ont pas voulu. Eh bien, je le fais quand même. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai passé cette certification Fondation sans du tout l'avoir donné toute dernièrement. Mmh. Donc, je l'ai eu quand même, hein, je vous rassure. Donc, je l'ai eu deux fois. Comme Chuck Norris qui compte à l'infini, deux fois. Moi, j'ai eu la certification Fondation deux fois. Et non, mais par contre, ça m'a été très utile pour donner ensuite la formation 2018 parce que là où le GASC, donc l'organisme qui génère les questionnaires, ce n'est pas l'ISTQB qui... L'ISTQB génère le syllabus, ou les syllabies. Et le GASC, à partir de ces syllabies, génère des questionnaires. Et ils génèrent des questionnaires vraiment... ils essayent malgré tout, eux, d'être un peu up-to-date. Donc, les exemples d'exercices, etc., ils essayent de... Maintenant, ils vont faire des choses qui se passent dans le cloud, quoi. Ouais. Avant, ils faisaient de l'AS400, maintenant, ils font du cloud. Mais effectivement, en fait, moi... Le fait que la certification, elle évolue avec le temps, elle n'a pas trop besoin d'évoluer avec le temps. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, oui, les expériences, le contexte change, mais la méthodologie en elle-même, c'est la même. Et il faut qu'elle s'adapte au contexte. Enfin, on ne va pas faire un cours d'ISTQB, mais un des principes du test, c'est quand même que les tests dépendent du contexte. Et ben, la méthodologie enseignée dans ISTQB doit, elle aussi, s'adapter au contexte. Donc, pour moi, c'est important d'être up-to-date quand il y a un changement dans les normes. Et notamment, entre 2011 et 2018, ils nous ont sorti la sécurité des tests fonctionnels pour la mettre dans les tests non fonctionnels. Mmh. Ça, c'était... Donc, c'est le nom de la norme avant, mais du coup, on est passé à la...
Ils les enlèvent, de toute façon, les normes, à chaque fois. Dans les,
mais
il y en a
exactement,
de moins en moins.
Bah, ça fait partie des astuces que je pourrais donner aussi. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, ils ont enlevé les normes de tous les questionnaires parce que bah, les normes, elles bougent plus vite que les questionnaires. Donc, voilà. Donc, voilà. Je pense que là où il faut qu'ils s'adaptent avec le temps, c'est dans la constitution des questionnaires et le fait d'avoir des questions qui parlent aux gens et pas des questions du siècle dernier, quoi.
Super intéressant, là, cette nuance que tu viens d'apporter. ISTQB, GASC. GASC qui fait les questions.
L'ISTQB, qui est donc un organisme international, mais qui a été... dont le siège est à Berlin. Juste. Et donc, eux, ils font les syllabus, les syllabies en anglais. Les syllabies sont traduits et après, dans chaque pays, il y a un organisme, donc en France, c'est le GASC, qui, à partir de ces documents, génère des questionnaires. Peut-être qu'un jour, on arrivera, pour être dans la créativité et dans l'innovation, ils utiliseront peut-être une IA Gen pour générer les questionnaires qui, du coup, seront peut-être mieux formulés en français et pas traduits de l'anglais. Parce que si tu veux qu'on passe aux astuces et tips des questionnaires ISTQB, il y a vraiment une... qui est peut-être maintenant de moins en moins réelle pour la bonne et simple raison que les traducteurs automatiques sont quand même de plus en plus performants. Mais pendant longtemps, la traduction automatique était faite avec les traducteurs du moment, donc les Google Trad, pour ne pas le nommer, mais qui était... Alors, aujourd'hui, ça s'est un petit peu amélioré. Mais quand j'ai passé Test Manager, ça doit être en 2014, un truc comme ça, 2013 ou 2014, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, une des astuces que je donne, et je ne sais plus si je voulais donner, Karim, ça dépend des gens que j'ai en face de moi aussi, c'était si vous ne comprenez pas la réponse, c'est qu'elle est mal traduite et ça ne peut pas être la bonne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand les questionnaires sont traduits, ils sont repassés dans les mains des experts du GASC. Et en fait, les experts du GASC se focalisent sur les bonnes réponses pour qu'elles soient bien traduites. Mais les autres, voilà. Donc, quand c'est vraiment genre des doubles négations, enfin, un truc qui est vraiment en français. Et c'est vrai aussi pour Fondation. Hein. Donc, mais bon, Fondation, maintenant, ils ont un tel volume de questionnaires que je pense qu'ils ont quand même résolu ce petit problème, on va dire. Mais voilà. Après, tu parlais de l'évolution des certifications. On va arriver à une V4 de Fondation, là, sur 2024, où en fait, ils essayent quand même de suivre les modèles de développement actuels. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier compte-rendu de la CFTL avec les modèles de développement utilisés aujourd'hui, qui sont plutôt 2/3 agile et 1/3 cycle en V encore. Ouais. En tout cas, c'est les réponses données au questionnaire. Parce que des mini-cycles en V en agile, vous en avez vu tous autant que moi, donc voilà. Mais du coup, effectivement, dans cette V4 de Fondation, elle sera beaucoup plus tournée vers l'agilité. Le syllabus est déjà sorti, mais bon, ils ont mis plus d'agilité, c'est tout. Le seul ajout, c'est ça. Donc,
Toi, Greg, dans le cadre de tes cours, quelle part d'ISTQB, du coup, on peut retrouver et quelle part d'expérience pratique?
Je dirais qu'il y a une 15% d'ISTQB, parce que c'est quand même la base. On commence par là avec les définitions, les terminologies, la méthodo, etc. Et puis après, ça découle sur beaucoup de pratiques, sur ce qu'on voit chez les différents clients, chez les bonnes pratiques qu'on a pu recenser. Et on explique sur le comment faire, sur la manière dont les testeurs peuvent utiliser les différents outils. Et on parle des différents métiers du test, etc. Mais c'est vrai que l'ISTQB est toujours là, prégnant, pour imposer une terminologie et pour qu'on parle le même langage.
Il m'enlève les mots de la bouche. Une des vraies forces d'ISTQB, c'est d'avoir un référentiel de vocabulaire commun et international. Parce que le I de ISTQB, il est quand même international. Et un des intérêts de ces certifications, aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui bouge beaucoup et les générations actuelles, alors je me mettrais presque dans les générations actuelles, j'ai pas eu l'occasion, mais je suis en mission en anglais en permanence en ce moment, donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de partir à l'étranger, mais aujourd'hui, avec une certification fondation ou test manager acquise en France, partez aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Chine même, enfin voilà. Tout le monde, c'est vraiment le même vocabulaire. C'est vraiment international et c'est une des vraies volontés d'ISTQB de rester international et de ne pas avoir de spécificité pays. Et c'est pour ça, je vous parlais tout à l'heure de usability, où il faut qu'il s'améliore parce qu'en fait, là, celle-là, elle est sortie aux États-Unis. Donc, du coup, elle est très orientée Amérique du Nord. Mais il faut que les Européens se l'approprient et l'européanisent un petit peu.
En termes d'attractivité pour un profil, est-ce qu'il y a un avant et un après pour les certifications? Une fois qu'on a obtenu la certification, je vais dire fondation, par exemple, des ISTQB, est-ce que, personnellement, toi, Nathalie, est-ce que tu as ressenti un avant et un après dans ta carrière?
Complètement.
Ouais.
Ah oui, complètement. Et pourtant, comme je disais, j'avais déjà fait quand même pas mal de tests avant, mais de façon officieuse. Et en fait, pourquoi l'avant-après? C'est qu'en fait, on met des mots sur des techniques qu'on utilise déjà. Je vais vraiment faire mon expert ISTQBiste. Mais quand on parle de partition d'équivalence, d'analyse de valeurs aux limites, etc., ouais. J'imagine, Grégory, à la fac,
bien sûr.
Tu en parles. Et en fait, les gens ne mettent pas ce nom-là dessus. Mais quand on a déjà fait un peu de test et qu'on a lu une spécification, évidemment qu'on va aller regrouper les comportements. Mais sauf qu'en fait, avant de passer la certification et soit de lire le syllabus, soit de suivre une formation, on n'a pas ces termes-là. Et en fait, moi, vraiment, j'ai eu un avant et un après. Et avec mon côté formatrice que j'avais déjà avant d'être certifiée, je me suis dit, mais c'est magique, parce qu'en fait, ça donne une assise et une... Justement, ce côté expert, quand on s'adresse au client et qu'on lui dit... Avant, je lui disais, ouais, enfin, ça a le même comportement, quoi. Après, je lui ai dit, non, mais c'est la même partition d'équivalence. Mmh. Ben, le client, il m'a regardé différemment et il m'a dit, c'est quoi une partition d'équivalence? Je lui ai expliqué, il me fait « Ah ouais, c'est bien, parce que oui, effectivement. » Et lui, il l'a vu avec son esprit métier. Et ça m'a encore plus confirmé que les méthodes préconisées dans Paris STQB sont vraiment des méthodes pratiques. Alors, la grande différence d'ISTQB, c'est qu'on apprend les techniques une à une et très silotées. Et que, je ne sais pas si tu te rappelles cette remarque que j'ai faite, mais que je fais systématiquement, on apprend tout séparément. Et puis, il y a une petite phrase tout en bas du slide qui dit « Mais évidemment, pour que ça marche bien, il faut tout combiner. » Mais ISTQB a eu cette... Enfin, dans les syllabus, ils ont eu la force, l'envie, enfin, je ne sais pas comment le préciser, mais de séparer tout pour expliquer unitairement chaque technique, qui du coup est beaucoup plus compréhensible. Et on arrive à mieux cadrer les choses. Et derrière, effectivement, dans la vraie vie, on mélange
tout. Faut tout mixer.
Et surtout, on sait les intérêts de chacune des techniques. Donc, on va utiliser la bonne technique au bon moment. Et j'imagine que dans les exercices pratiques, c'est justement ne pas préciser quelle technique utiliser. Mais alors que là, pendant les questionnaires ISTQB, on dit quelle pratique utiliser. Mais dans la vraie vie, en fait, on est devant un problème et il faut qu'on trouve quelle est la technique la plus pertinente pour traiter du problème qu'on a en face de nous.
Oui, non, clairement, c'est comme jouer au tennis. Hein. On fait beaucoup de théories, on travaille le coup droit de manière isolée, mais dans le match, on va avoir du coup droit, du revers, on va monter à la volée, etc. Donc, il va falloir être assez intelligent et pertinent pour utiliser la bonne technique au bon moment. Et c'est ce genre de réflexe qu'on essaie de donner aux élèves et pour qu'ils comprennent aussi de quoi ils parlent. Parce que, en effet, ils ont été développeurs, ils ont fait des tests unitaires, mais ils ne savent pas que ça s'appelle des tests unitaires. Ils ont fait des tests composants, des tests d'intégration composants. Ils ne connaissent pas les niveaux de tests, tests fonctionnels, tests système. Donc, c'est leur donner cette sémantique-là qui leur permet de discuter avec un testeur, avec un PO. Mais encore faut-il qu'il y ait une stratégie globale au sein de la société dans laquelle ils travaillent pour ne pas aller quelque part être en distorsion avec tous les autres.
Ça c'est clair. Le test au sein des sociétés, qu'elles soient de service ou des clients. Moi, forcément, étant en société de service, ça représente plus mes clients, mais le métier du test, il n'est pas toujours présent. Il y a des gens qui vont tester des choses, mais ce n'est pas reconnu comme un métier. Des entreprises qui ont une vraie politique de test, au sens ISTQB, il n'y en a pas tant que ça non plus.
Non, il y en a peu.
Il y en a de plus en plus, mais on est toujours à un niveau très, très bas. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que le marché du test est en pleine expansion et qu'il a une évolutivité qui est très, très élevée.
Exponentielle, hein. c'est incroyable.
Et donc, du coup, en tant que nouvel arrivant, en tout cas, quand on arrive et qu'on doit faire la propagande de la qualité dans les entreprises, moi, je me retrouve souvent, du coup, à me reposer sur les principes fondamentaux du test. Et c'est là où je vois toute l'utilité des certifications, notamment la fondation, parce qu'on t'apprend vraiment les bases. Et sur ces quelques principes fondamentaux, tu peux te reposer pour vraiment asseoir la stratégie de test n'importe où. Quoi.
C'est pas pour rien qu'elle s'appelle fondation.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai. Hein, c'est... Au sein d'OnePoint, hier, j'ai fait... En plus, c'est vraiment hier. J'ai donné une formation que j'ai appelée l'ABC du test, qui était à... Pour le public était des sales, des développeurs, des architectes, mais qui avaient entendu parler du test, mais voilà. Et je me suis, alors justement, t'as vraiment basé sur ces 7 principes du test. Et pour eux, quand je leur ai dit que tester tout était impossible, ils m'ont dit, bah si.
Les tests exhaustifs.
Voilà, les tests exhaustifs sont impossibles. Bon, je le synthétise en tester tout, mais tu as raison, le test exhaustif. Et du coup, je leur ai donné des exemples. On arrive à des combinatoires à 2 puissance 32. Je leur dis, on va faire 2 puissance 32, 4 tests, quoi.
Ouais, pas manuellement, du coup.
Bah, déjà, pas manuellement, mais même en automatique.
La pyramide des tests aussi, qui est super importante. Quand on arrive sur un projet qu'on nous demande d'automatiser en front et qu'on commence à demander « Ok, et les développeurs font des tests unitaires ?» C'est des quoi ?
Des tests unitaires.
Excellent.
De quoi parlez-vous ? Non, mais c'est très vrai. Les développeurs aujourd'hui que je reçois en cours, qui sont en licence informatique et qui ont un vrai bagout informatique, eux me disent, les tests, c'est quoi ?
Alors, moi, j'ai eu l'occasion d'en avoir quelques-uns comme ça en formation, des gamers fous. Et je leur ai dit, tu sais ce que c'est qu'un bêta-test ?
Mm-hmm.
Et là, il me dit, bah oui.
Évident.
Je l'ai fait vraiment avec le ton. Non, mais elle croit quoi, elle ? Je dis, voilà, tu fais du test quand tu fais un bêta-test. Alors, je dis, t'es bien gentil parce qu'en plus, tu testes aux frais de la princesse,
ouais.
Voire même, t'as payé pour tester.
Totalement.
Donc, un petit peu moins cher que les autres, peut-être, mais quand même. Et je lui dis, et du coup, quand tu rencontres des problèmes, tu les remontes. Il me dit, bah oui, c'est comme pour ça qu'on paye moins cher. Je lui dis, voilà, t'es testeur. Alors là, dire ça à un développeur...
Il a du mal à l'avaler.
Non, parce qu'il était quand même là pour faire une certification ISTQB. Donc, bon. Et du coup, là, l'entrée, enfin, cette porte d'entrée du bêta-test pour les férus d'informatique et de jeux, ça marche plutôt pas mal. Mmh. En général...
Je la note. J'ai des gamers incroyables.
Ah ben, dans des licences...
Ils sont sur Fortnite toute la nuit.
Oui, voilà, sur Fortnite, sur LOL, sur tout ce qui...
Et ils en remontent des bugs.
Ben, exactement.
Et ils en remontent. Ma mitraillette n'a pas tiré.
Voilà, ils sont testeurs, ils le savent pas, mais...
du coup, on a parlé de fondation. Donc, on est tous d'accord, je pense, autour de la table pour dire que fondation, c'est super important.
Pour avoir, c'est la base.
Ne serait-ce que la terminologie. Est-ce que, de ton point de vue, il y a certaines certifications qui, dans certains contextes, sont passables, inutiles, on peut le dire.
Alors, je pense qu'il y en a une sur laquelle nous sommes tous d'accord. Peut-être qu'on ne la citera pas complètement,
On peut le faire. On dit les termes ici.
Qui s'adresse soi-disant aux automaticiens, par exemple, et qui, à mon sens, ne sert pas à grand-chose parce que vaut mieux qu'un automaticien passe test manager plutôt que... La certification spécifique automaticien qui...
Pourquoi précisément ?
Parce qu'elle est plus pratico-pratique test manager et ouais. Elle va même te donner des notions qui vont être utiles pour les automaticiens.
Ouais.
Alors que je ne sais même plus le nom exact de cette certification, mais je pense qu'on parle tous de la même.
Je l'ai passée donc.
Voilà, et tu l'as eu, je suppose même.
Pour être totalement honnête, en fait, quand on l'avait passée... Donc la certification automaticien, on était beaucoup du coup à ne pas l'avoir eu. J'en fais partie, je ne l'ai pas eu. Mais j'ai quand même retenu pas mal de vocabulaire qui me sert. Donc par exemple, les crochets de test, j'aime bien utiliser ce mot. Quand on parle d'une application par exemple mobile et qu'on n'a pratiquement rien pour attraper nos éléments, nos web elements, là que je vais voir les développeurs, j'aimerais bien que tu mettes des crochets de test. Je trouve que l'image est bien quand même. Mais oui, ça fait beaucoup une certification pour un seul mot-clé comme ça.
Ça fait déjà, en plus, je ne sais pas combien de temps tu as passé en formation et la certification en elle-même, combien de temps elle dure. Mais après, sans parler des certifications, que ce soit Fondation Test Manager, mais il y en a d'autres, hein, mais les analystes de test ou analystes de test technique. Typiquement, pour un automaticien, je pense que l'analyse de test technique peut être plus pertinente. Parce qu'elle va être plus ouverte, en fait. Enfin, elle est plus large. Et du coup, elle peut être... moi, je l'ai pas passé ni analyse de test, ni analyse de test technique, parce que je m'étais renseigné auprès des membres de la CFTL, ils m'avaient dit, si t'as test manager, ça n'a pas grand intérêt d'avoir les deux autres. Mais ça peut s'adresser à des gens qui n'ont pas envie d'avoir ce côté, justement, manager, mais qui veulent continuer à aller vers de l'expertise de test. Mmh. Donc, ces niveaux avancés d'analyse de test et analyse de test technique permettent d'avoir une certification d'un niveau supérieur sans être obligé de faire de la gestion d'équipe et de parler de la psychologie du testeur et qu'il faut qu'il soit diplomate, fédérateur, avec des petites étoiles dans les yeux et tout pour que tout le monde le suive. C'est d'ailleurs le message Zenity. Hein. On est tous une étoile, il faut juste apprendre à briller.
C'est exactement.
Et je cite les punchlines Zenity maintenant.
Merci Nathalie.
On en a aussi un chez nous, chez vas-y. OnePoint. Je vais quand même essayer.
Comparons.
Nous, c'est Beyond the Obvious. Donc, on est...
Vous êtes au-delà.
Voilà, on est au-delà.
Et du coup, t'en parlais, test manager. Nous, on a un petit débat en interne chez Zenity. La nuance entre test lead et test manager. Alors, on aimerait avoir ton expertise sur le sujet. Est-ce que tu veux que je te donne, nous, notre nuance et comme ça, tu pourras nous corriger, peut-être ? Alors, en tout cas, moi, mon point de vue...
Vous avez le même avis, tous les deux ?
Pas nécessairement.
Ah, cool. Du coup, je veux bien les deux avis.
Peut-être. Alors, du coup, mon point de vue, c'est qu'un test lead, du coup, il va leader une opération, donc par exemple de test. C'est un lead, mais il ne va pas forcément manager des employés, des collaborateurs. Tandis qu'un test manager, lui, il ne va pas forcément avoir cette vision secteur, cette vision activité du test, mais il va plus être au contact de ses subordonnés, du coup, vu qu'il est manager. Et il va gérer, donc, par exemple, les emplois du temps, le respect des horaires, les choses un peu managériales, on va dire, les humeurs de chacun, ces choses-là qui sont pour moi très importantes. C'est un peu la nuance que je fais.
Moi, je pense qu'on peut avoir plusieurs avis. Je pense que le lead, il est quand même au contact de son équipe.
Bien sûr.
Mais c'est un lead de son équipe. On va appeler ça feature team. Mmh. Il a ses 3-4 testeurs dans son équipe. Ça peut aller au-delà. Mais il va gérer que sa team. Alors que le manager, lui, il va avoir une vision plus transverse des projets et il va leader les test leads, si je vais schématiser. Pour moi, il est transverse, il est un peu en râteau avec les leads et ce sont les leads qui lui rendent compte et non plus les testeurs.
Intéressant.
Voilà ma vision.
Je pense qu'on est à peu près en phase. Le test lead, effectivement, pour moi, c'est si même on parle en termes de chiffres, le test lead, il va avoir une petite équipe de 3-4 personnes. Le test manager, on va plutôt être dans les environs de 15-20. Donc, effectivement, soit dispatché en plusieurs équipes où il va avoir du coup un râteau avec plusieurs test leads, soit il va gérer tout seul l'ensemble de son équipe et donc de gérer les humeurs. Mais du coup, moi, ma vision, c'est vraiment qu'il y a ces deux rôles différents qui peuvent être tenus par la même personne, mais c'est deux rôles différents. Donc, le test lead, il est vraiment très organisation au jour le jour. Le manager, il faut qu'il ait une vision et qu'il fait du planning long terme et il sait où il veut arriver. Le test lead, alors je ne dis pas qu'un test lead, il faut juste qu'il sache ce qu'il veut faire dans sa journée, mais à la limite dans sa semaine, il n'a pas besoin de voir à 2 ans. Alors que le test manager, on va lui demander d'avoir cette visibilité et cette vision vraiment à beaucoup plus long terme.
Oui, même au niveau des documents, je trouve que ce n'est pas les mêmes documents. Le lead, il va nous faire une stratégie de test pour son équipe. Test manager, il peut penser même à faire la politique de test. Donc, on est sur quelque chose d'un peu plus, haut, avec plus de hauteur, plus d'abstraction et avec un management qui est avec beaucoup plus de personnes sous son égide. Et le lead, il est facilitateur lorsque le manager, il est moins dans justement l'humeur des gens, il est plus dans « on va faire comme ça ». Et le lead, lui, il va appliquer, il va dérouler et il va faire les petites modifications, les coups de tournevis qui vont bien pour que dans son équipe, la politique de test s'adapte bien. Alors que le test manager, il a tellement un niveau d'abstraction que lui, il ne va pas dans le détail.
C'est intéressant.
Et les interlocuteurs, en général, sont aussi différents.
Totalement.
Le test lead, il va avoir le dev lead en face de lui. Et le test manager, il va avoir le chef de projet, le directeur de programme.
Ouais,
et si on a en face de nous des clients, le test manager peut discuter avec le DSI.
Bien
sûr. Test lead, moins. Alors, sauf si c'est une microstructure, voilà.
Non, c'est rare. C'est
le niveau d'interlocuteur aussi qui... Mais je répète, les deux peuvent être dans la même personne. Enfin,
bien sûr.
Les niveaux de salaire aussi sont différents, souvent.
là, on voit le PDG qui parle.
C'est ça, le recruteur. Ça dépend des certifications. Peut-être qu'un test lead très bien certifié sera mieux payé qu'un test manager.
Ah, ça, c'est une très bonne question à savoir si, en tant que patron, est-ce qu'on regarde la certif que notre collaborateur il a. Franchement, je ne pense pas que ça joue un rôle énorme.
Ça dépend des structures, je pense, vraiment.
Ouais.
J'ai l'impression que c'est important quand même.
Moi, je sais que je fais beaucoup de recrutement aussi. Je suis pas PDG, mais je participe au recrutement et en tout cas nous chez OnePoint ou Beyond the Obvious, donc vraiment c'est l'expertise qui compte. Alors typiquement fondation, on ne recrute pas des gens qui n'ont pas fondation, sauf s'ils sortent tout juste de l'école et que, du coup on va les former et les certifier dès leur arrivée, mais non, ça joue beaucoup. Hein. Ça peut même faire partie des critères des degrés d'expertise. Enfin, voilà, on peut... Après, toute proportion gardée, il faut se... Enfin, quand même, je vais répondre à une des questions que tu m'as posées tout à l'heure entre expérience pratique ou connaissance théorique. Évidemment que quelqu'un qui a une expérience folle, mais pas de certification, On va pas dire ah non, c'est pas possible. On va l'aider à être certifié vraisemblablement s'il rentre, mais c'est pas un critère rédhibitoire. Mais ça fait partie des critères qu'on peut prendre en compte et même par rapport au niveau de salaire proposé par la suite.
Bien entendu. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des professionnels très expérimentés qui continuent de passer des certifications, j'ai l'impression.
Je pense qu'il y a une dualité dans la volonté de passer une certif. Il y a à la fois le fait d'asseoir des compétences et de vérifier que ce qu'on faisait dans notre coin, pensant qu'on maîtrisait, qu'on le maîtrise réellement, et de pouvoir avoir les bons termes. Tout à l'heure, Nathalie l'a dit, quand tu parles partition d'équivalence, tu dis la même chose que faire des tests cas passant, cas non passant. Et je regroupe des données, ça donne le même résultat. Mais quand tu dis partition d'équivalence, ça assoit quand même une certaine maîtrise de ce dont tu parles. Après, il y a une réalité, la réalité du terrain. Un test manager qui n'est pas certifié, mais qui gère une équipe de 40 personnes, tu ne vas pas pouvoir nier sa capacité à faire avancer les choses. Maintenant, il est clair qu'on va lui présenter cette certification-là comme des pratiques qui pourront l'aider au quotidien et lui permettre peut-être d'avancer plus vite sur certaines choses. En tous les cas, la certif, lorsqu'elle est high level, je pense que déjà, pour vouloir se présenter à cette certif-là, il faut avoir un certain niveau et il faut avoir une certaine pratique, un certain recul sur le test, avoir vu un certain nombre de projets qui te permettent quelque part de faire la part des choses et dans les informations que tu vas recevoir, de ne pas être rigide. Parce que ISTQB, si on prend ISTQB pour ISTQB, il n'y a pas beaucoup de projets où tu vas pouvoir adapter ton ISTQB pur ISTQB au quotidien. Il va falloir que tu prennes les choses en fonction de ton projet, que tu les adaptes, que tu aies assez de recul là-dessus. Et je pense qu'avec tout ça, on arrive à un package qui est très intéressant et on devient des testeurs de haute qualité et on peut aspirer à des salaires très, très attractifs. Mais le collaborateur qui, moi, me dit « Attends, je suis certifié test manager, tu ne m'as pas augmenté ben, », tu n'es pas test manager au quotidien. Certes, tu as été un très bon étudiant et tu as reçu la certification test manager, mais es-tu capable de manager une équipe de 15, 20 personnes comme la certif dit que tu es capable de le faire? Il faut quand même que tu pratiques et que tu nous démontres que tu ne vas pas perdre pied lorsque un de tes collaborateurs, en pleine réunion, il va te dire t'as faux, c'est pas comme ça qu'on teste. Moi, je testais chez Volkswagen, on testait pas comme ça. Il va falloir que, quelque part, tu aies la maîtrise de toi, parce que c'est déjà la maîtrise personnelle, la maîtrise technique, théorique, pratique, pour pouvoir démontrer et peut-être même donner raison aux collaborateurs, parce que les collabs qui sont des simples testeurs peuvent avoir des...
Personne à la science infuse. Hein.
Mais oui, peuvent te présenter des choses qui sont très intéressantes et il faut avoir ce côté managériel pour être assez intelligent et assez pragmatique pour dire « mais super idée ».
Mais exactement.
Et c'est pour ça qu'on fait des rétrospectives pour que chacun puisse avoir voix au chapitre et pour qu'on puisse s'améliorer au quotidien.
Et est-ce que vous êtes d'accord du coup avec le fait que plus on a d'expérience, parce que les certifications elles ont un coût, ça c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais
oui,
passer une certification ça a un prix. Est-ce qu'on peut se dire que le rapport coût-bénéfice d'une certification il va en diminuant en fonction de l'expérience du profil?
On va même carrément utiliser le terme qu'on a dans Test Manager, le ROI. Hein.
Ouais.
Indirectement, c'est un retour sur investissement. Hein. À mon sens, même quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, s'il vient passer Test Manager, il apprendra encore des choses.
Mmh.
Parce qu'il apprendra à cadrer son expérience.
Ouais.
Et ça ne remettra absolument pas en cause son expérience. Mais par contre, il va pouvoir mettre des mots, un peu comme on a parlé de partition d'équivalence au niveau fondation, mais il va pouvoir mettre des mots et les coûts indirects. Enfin, j'ai cette image, mais cette arborescence des coûts de la qualité, où tu as les coûts directs, les coûts indirects. Et quand tu fais test manager, tout le monde, en arrivant, sait qu'une anomalie, quand elle est détectée en production, elle coûte plus cher que si on l'a détecté au moment de l'expression des besoins. Ça, c'est, tout le monde le sait. En plus, c'est déjà dit en fondation. Mais là, on te décortique, et sur un cas pratique en général, une anomalie, tout ce qu'elle coûte en coup direct parce qu'il y a eu une anomalie, il faut la corriger, etc. Mais le fait d'être obligé d'avoir le re-engineering et puis les équipes de support qui sont obligées de prendre en charge l'anomalie et éventuellement faire la data recovery qui va avec, etc. Donc, en tant que test manager, ton client, il va te dire c'est quoi le coût de la qualité. Ouais. Et toi, tu vas lui dire mes coûts récurrents, c'est ça. Mmh. Mais le fait de vous apporter de la qualité, ça vous enlève tous ces coûts indirects. Alors, c'est très, très compliqué à chiffrer. Hein.
Oui, non, d'une dizaine d'euros dans les specs.
Tu découvres une anomalie avant même qu'elle ne soit devenue une défaillance. Tu la découvres dans l'expression de besoin en faisant du test statique, en relisant une spécification. D'euros. Voilà, 10 euros. Tu la découvres
en production,
10 000 euros.
Des milliers d'euros.
Ouais, enfin, même, ouais, effectivement, on dit du fois 1000. Et donc, ce fois 1000, c'est ça que tu apprends en fondation. Mmh. En test manager, tu apprends à décortiquer tout ça.
D'accord.
Et du coup, à avoir, quand tu as des financiers en face de toi, et à leur expliquer comment calculer leur ROI. Tu parlais de toi qui es automaticien, tu automatises pas sans connaître le ROI qui va être lié à ton automatisation. Et c'est pour ça que tu vas choisir certains cas de test à automatiser et pas tous. Parce qu'un cas de test qui fait 2 secondes, même si tu le fais tous les jours, tu ne vas pas l'automatiser. Surtout que si tu le fais tous les jours, il doit un petit peu évoluer. Donc, la maintenance et surtout la charge de travail pour écrire le script et le maintenir serait supérieure. Mmh. Donc là, je prends un exemple très, très caricatural, mais exprès. Donc vraiment, je pense que pour un automaticien, test manager, justement, te permet de prendre du recul, comme disait Grégory tout à l'heure. C'est cette hauteur de vue, en fait, que tu as dans Test Manager et que tu n'as pas dans les autres certifications. Et je pense qu'en plus, Test Manager t'apporte des mises en situation. Alors, je pense que ça dépend aussi du formateur. J'aime faire des fleurs en disant que comme moi, je suis une formatrice qui est Test Manager dans la vie de tous les jours. J'ai des exemples facilement à proposer. Quand c'est quelqu'un qui fait que de la formation, je pense que ces exemples, ils datent du syllabus, c'est-à-dire de 2012.
Non, mais on ne le dira jamais assez. Pour moi, un bon formateur est quelqu'un qui vient du terrain. Parce que les questions qui fusent, le parterre déformé, oui.
T'en es un exemple parfait aussi. Hein.
Le parterre déformé, les questions, c'est moi, j'ai telle situation, qu'est-ce que je fais? Ça arrive tout le temps. Et il faut avoir pratiqué, il faut avoir vu pour savoir comment s'adapter, parce que la théorie ne peut pas répondre à ces questions-là.
Et pour boucler la boucle, c'est pas parce qu'on a pratiqué le terrain qu'on sera un très bon formateur.
C'est
ce que j'ai dit. Le formateur, c'est aussi un métier.
Ah oui, non, c'est de la pédagogie, patience.
Et puis, il faut avoir envie.
Il faut aimer ça.
Faut aimer ça et il faut avoir envie de transmettre son savoir. T'as beau être. Et sinon, tous les experts seraient des formateurs. Ouais. Et Dieu sait qu'on sait bien que les experts ne sont pas tous des formateurs. Certains, mais.
Dernière question, après, du coup.
Déjà.
On se quittera et oui, ça passe vite. Est-ce que vous avez des ressources, des livres, des cours en ligne à recommander à nos auditeurs pour passer des certifications ou simplement pour se spécialiser dans l'univers du test?
Alors, il y a pas mal de livres blancs qui ont été écrits, et notamment sur le site du CFTL, parce que c'est comité. Il y a pas mal de livres blancs accessibles sur la qualité... au sens large, sur la qualité logicielle, etc. Après, moi, je ne suis pas une grande lectrice, donc c'est plutôt des articles. Après, je pense que vous la connaissez tous, mais La Taverne du Testeur, etc. Je trouve que c'est des sites qui sont très, très riches et qui sont en plus, je trouve, très up-to-date. Donc, bravo à eux, parce que ce n'est pas toujours évident. Oui, sauf graphiquement, on est d'accord. Oui, mais tout le monde n'a pas du matériel de haut niveau comme ici chez Zenity, tu vois.
Merci.
Mais mais effectivement, j'ai pas de. Enfin, moi, je vais pas chercher des infos. Après, je pourrais vous dire que j'ai aussi écrit un article sur la data migration et le testing, qui a été publié effectivement sur LinkedIn et qui est un petit peu, j'allais dire à la mode STQB, c'est une blague, mais qui n'est qu'un recueil de bonnes pratiques et une checklist de ce qu'il faut faire quand on est face à une data migration pour être sûr de rien oublier.
Et ça, on peut le retrouver sur ton profil LinkedIn, du coup.
Il y a des chances, oui, pourrais le reposter. Voilà, je pourrais le reposter. Poster si nécessaire. Je le mettrai en commentaire de ton podcast.
Allez.
Le mieux pour moi, c'est de discuter avec des gens entre pairs qui font le même métier dans des environnements différents, mais pour s'enrichir les uns les autres. Moi, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai donné et les forums aussi complètement. Ouais. Quand je donne des formations, mais je m'enrichis de l'expérience de tous les gens que j'ai en face de moi. Et effectivement, j'ai des automaticiens, des fois, des gens qui ont été test lead depuis très longtemps et qui ont envie d'aller vers test manager. Donc, il y en a aussi, hein, des fois, qui font cette certification pour découvrir ce qu'il y a derrière. Et effectivement, ceux-là, si derrière, ils réclament une augmentation parce que certifié, non. On va te mettre en situation d'abord et on verra bien.
C'est totalement ça.
Non, mais
merci
on est...
Merci beaucoup, Nathalie.
je fais passer des messages en même temps, mais ils sont valables pour Zenity et pour OnePoint aussi.
Oui, non, partout.
Et sinon, bah voilà, j'ai donné quelques tips tout à l'heure. Un des vrais conseils que je peux donner pour les formations ISTQB, quelles qu'elles soient, et les certifications, c'est vraiment que quand on rentre dans ces formations, il faut réussir à être déconnecté de sa vie de tous les jours et de son quotidien. Il ne faut pas que le quotidien prenne le pas sur la formation parce qu'il faut être dans une bulle. Et elle dure 5 jours, la formation test manager, 3 jours fondation. Elles ont toutes des durées différentes. Mais il faut vraiment s'enfermer
et travailler.
En plus de la formation.
La formation en elle-même ne suffit pas, les révisions sont obligatoires et éviter de dire « mais nous, on ne fait pas comme ça, on fait comme si sur notre projet, etc. » Écoutez, la théorie n'est peut-être pas adaptée à votre projet ou en tout cas pas en relation avec ce que vous faites. On ne dira pas que ce que vous faites n'est pas bon, mais ce n'est pas, peut-être pas ce qui est écrit dans l'ISTQB. Donc, conformez-vous à l'ISTQB.
C'est ça, pensez ISTQB pendant toute la formation.
Ah oui, non, il vaut mieux.
Et une fois que vous retrouvez votre quotidien, utilisez ISTQB à bon escient. Mais
avec parcimonie, hein, n'allez pas voir votre manager en disant « mais tu fais n'importe quoi, ça y est, je suis certifié,
tu me dis des conneries tous les jours.
Non mais c'est n'importe quoi, j'en ai marre de travailler dans de telles conditions, j'ai passé
tu
la
peux
certif,
pas travailler comme ça,
je peux pas bosser comme ça. »
Exactement. Non, c'est...
Est-ce que tu as des ressources à conseiller à
des
nos
ressources
auditeurs?
Non, pas particulièrement.
Je sais que tu as été beaucoup dans la conversation aussi avec les initiants. Au particulier,
oui.
Pour savoir connaître un peu leurs pratiques, savoir ce qu'ils utilisent en mission.
Ce qu'ils utilisent en mission, bah, déjà, ils sont tous certifiés STQB, ça c'est une certitude.
100%.
Ensuite, c'est beaucoup de formations de chez nous, hein, de la Zenity Academy, hein, certifié Calliope, c'est pas pour rien, et des certifications, ou plutôt des formations qui sont énormément basées sur la pratique, hein, on en parle quotidiennement. Le but, c'est de pouvoir former nos collaborateurs autour de tout ce qui se fait chez nos clients et de récupérer le meilleur, rien que le meilleur, pour essayer de le présenter et de faire en sorte que les collaborateurs aient un maximum de facilité à s'adapter à toutes les difficultés. Et comme l'a dit Nathalie, les forums, hein, les forums internes, les forums externes, parce que discuter avec d'autres collègues qui ont trouvé les mêmes problèmes que nous et qui ont peut-être adapté des solutions, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Il ne faut pas réinventer la roue. Il faut discuter avec les gens, voir ce qui marche le mieux.
L'esprit communauté.
Je vous conseillerais, du coup, en termes de communauté, de forum, de consulter le Reddit Software Testing. Donc, le subreddit qui est vraiment génial, en fait. C'est une mine intarissable de
Reddit,
questions.
Reddit, c'est une mine intarissable de plein de choses, plus ou moins intelligentes, mais je suis complètement en phase avec toi, Karim, le Software Testing.
Assez important, quand c'est des subs techniques, en fait, on va toujours trouver la bonne réponse qui a été le plus upvotée, du coup. Et ça fait quand même un tri, une modération dans les réponses. C'est quand même
mais c'est l'esprit communauté, justement. C'est vraiment le fait que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et avec sa propre expérience.
Bon, c'est en anglais.
Et oui, mais ça, de toute façon, l'anglais aujourd'hui devient indispensable.
Partout.
Donc, voilà. Et si je peux me permettre, juste, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Karim m'a rencontré lors d'une formation, parce que OnePoint est un organisme de formation aussi et qui est affilié à l'OPCO Atlas. Donc, pour toutes les entreprises du numérique, ça peut être pris dans des organisations collectives, enfin des financements, merci, collectifs. Donc, n'hésitez pas, on a des sessions, on a un catalogue qui est sur le net, lui aussi, alors qu'il ne va pas donner d'astuces pour les certifications.
Il faut écouter le podcast pour ça.
C'est ça. Eh ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et à remercier les auditeurs pour leur écoute. Alors, donnez aussi rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Quality Time. En attendant, bien sûr, n'hésitez pas à aller sur le LinkedIn de Zenity ou dans la rubrique Inspiration du blog de Zenity, donc zenity.fr. Et voilà.
Merci beaucoup, Karim, de m'avoir invité déjà parce que j'ai été très touché. Et merci pour cette superbe discussion.
Bah, j'insiste, merci à très toi d'être venu parce que c'était vraiment très intéressant. On aurait pu t'écouter pendant des heures.
On comprend pourquoi les formations se soldent par des validations et des succès.
Ils y sont pour beaucoup quand même. je veux bien prendre ma petite part, mais ceux qui réussissent, c'est eux qui sont 3 heures sur la planche le vendredi après-midi, c'est pas moi. Si j'ai facilité, tant mieux, mais c'est quand même eux qui sont là derrière. Et les compétences, c'est les leurs qui sont tamponnées, pas les miennes.
Humble avec ça en plus, donc c'est parfait.
Magnifique.
Au mois prochain, du coup. Au revoir.
Au revoir.